Nous avons proposé à Elie Düring de... il a tellement envie de parler qu'il faut, on lui donne un petit moment tout de même. donc Elie peut-être se présentera juste au moment où il fera son intervention d'introduction. Moi, il me semble que sur ces deux jours ces deux journées donc qui ont été très très copieuses, et je pense qu'on aura énormément de choses sur lesquelles on aura à revenir par la suite. Et je pense que c'était aussi le but du jeu du symposium, c'était un peu ça, et que ceci nous aide énormément dans le cadre du laboratoire Locus Onus, parce que justement. À partir de questions que l'on pose, que l'on ouvre, des pistes et des points de vue s'affichent et plein de feedback se mettent en route. Donc je pense qu'à partir de différents points, donc on a bien vu en partant de l'installation sonore, des streams, paysages sonores qui ont été des sortes de mots-clés durant ces deux jours. Il y a cette question de site donc qu'on avait posée dans le cadre de l'argument du symposium et donc qui a été traitée, on l'a vu pendant ces deux jours, d'une manière différente et très variée. Il y a également un point qu'on a vu magiquement se répercuter de présentation en présentation à partir de la sympathie donc qui était un terme dont on avait lancé comme ça le bouchon pendant un des laboratoires Locus Onus il y a un mois et qu'on a proposé également dans le cadre de l'argument et on a vu toutes les déclinaisons possibles et il y a une sorte de jeu comme ça entre différents saints tirés. Il y a sympathie, il y a eu Saint-Rythmie aussi, et Saint-Tonie, dont on a entendu peut-être hors champ, mais on l'a entendu tout de même de la part de Bastien. Donc ce serait pas mal s'il y a des questions dans ce sens-là. Ensuite, il y a aussi... une perspective qu'on espère lancer cette année dans le laboratoire, qui est la question de la mobilité, de l'autonomie. Lorsqu'on a décrit par exemple l'installation Locus Onus, on a vu qu'en fin de compte on est sur un dispositif avec des points fixes et en émission et en réception, et on a commencé à discuter sur le fait d'avoir des points mobiles en fin de compte sur ce dispositif. Ensuite, je rebondis un peu sur ce que Jean vient juste de nous narrer précédemment, sur ces questions de réseau, des questions de points d'émission et de réception, et du basculement donc qu'il évoquait. Et donc, il y a aussi cette interrogation sur ces points d'émission et de réception dans le cadre de ce réseau. Que deviennent-ils ? Ne sont-ils pas justement des points d'expérimentation de ce réseau lui-même, etc. Donc je pense que des choses à dire dans ce sens-là. Ensuite, il y a aussi quelques petites choses qui sont apparues sur la question du dispositif. Dispositif étendu, tu parlais d'appareils, après des hôtes, instruments également, donc qui sont des termes qui me semblent aussi à préciser dans ce cadre-là. Donc voilà, j'ai essayer de repérer un peu les points, c'est pas du tout exhaustif, mais qui peuvent être des points d'appui pour vos questions qui vont suivre. Je laisse la parole à Elie qui piaffe d'impatience. Et, voilà.
Écoute, merci. Mais je veux pas... merci d'abord de m'avoir invité, parce que je suis plus ou moins invité en qualité d'observateur, donc j'ai observé pendant deux jours et... Donc je me sens tenu, si je suis impatient, c'est parce que je me sens tenu d'accomplir ma tâche et de dire ce que j'ai observé. Ce concept, ou cet outil, je ne sais pas, qu'on désigne sous le mot de sympathie, donc que ce soit syntonie, synchronie, syn-rythmie, c'est un concept qui est probablement une bonne piste, effectivement, qui en même temps, plus j'y réfléchis, plus Plus il m'apparaît qu'il y a aussi quand même il y a aussi un danger potentiel, quoi. C'est-à-dire qu'on dit sympathie pour peut-être pas dire symphonie, quoi. Et là, bon, ce serait un peu gênant de revenir à une sorte de romantisme, de la consonance universelle ou de la résonance, de la réverbération, de la communication universelle des êtres à travers les couleurs, les sons. Et bon, c'est des choses qui se répondent, comme disait Baudelaire. Donc, bon, comment développer des pratiques ou une pensée opératoire de la sympathie, quoi, qui ne retombe pas dans la symphonie ou dans cette conception symphonique de la musique du monde, quoi. Bon. Alors ça, c'est évidemment pas dans cette direction qu'il faut aller, et c'est toujours un peu le risque avec les pratiques qui jouent la communication, les réseaux, etc. Bon. Ça, c'est ma première remarque. Par ailleurs, je constate, là, vraiment, j'observe que ce mot qui revient, ce concept qui revient souvent, il revient dans des contextes très différents, quoi. C'est vrai que de la sympathie comme, disons, syn-rythmie, hein, il y a ces questions à propos du paysage, à la sympathie comme effet de, disons, de réverbération, de résonance de proche en proche et de stabilisation de dissociscope, dissociateur à lampanéon mis en batterie. Bon, il y a quand même un gouffre, quoi. On ne parle pas exactement de la même chose, même si le terme qui vient naturellement est le même. Bon. Donc ça, c'est à mon avis une bonne piste à articuler, quoi. Après, simplement, moi, j'ai repéré, trois questions ou trois lieux où il me semble qu'il y a vraiment des enjeux importants qui sont réinterrogés là dans le cadre de Locus Sonus. Donc, je les énumère d'abord, puis ensuite, je vais dire deux, trois mots sur chacun. Le premier enjeu, et là aussi, c'est un terme qui revient souvent, c'est l'expérimentation. Qu'est-ce que c'est que ces pratiques dites expérimentales ? Donc, l'expérimentation... L'autre lieu, c'est le lieu, justement, c'est locus, c'est la question à laquelle on est porté, qui est de savoir ce que veut dire locus, non, exactement, dans locus sonus. Bon, sonus, on comprend tous, mais quoi, locus ? Donc, audiocyte, c'était un peu le thème qui de ces deux journées. Quelle idée du site se dégage de ces pratiques où il est tout le temps question, sinon de lieu, du moins d'espace, quoi. Et là aussi, il y aurait matière à discuter parce que, bon, je dirais qu'il y a peut-être différentes stratégies, quoi, au sein même de Locus Sonus, là, qui se dégage pour aborder cette question et l'articuler. Et puis le dernier point, le dernier lieu, c'est la question, disons, alors je ne sais pas, tu m'as corrigé, Jérôme, mais tu as absolument raison. Spontanément, je dis du temps réel, mais en fait, c'est peut-être plutôt du direct, quoi, avec cette distinction entre le direct et le temps réel. Alors, pour faire vite, je vais dire du stream, quoi, du streaming, dans son aspect, dans sa dimension de direct ou parfois de temps réel, quoi. Ça, c'est une question, à mon avis, qui est cruciale. C'est-à-dire qu'il faut articuler la question de la durée et la question de l'espace, quoi, pour faire bref. Bon, alors, rapidement, sur l'expérimentation, merci à Peter Sinclair de nous avoir représenté et fait entendre, pour ceux qui n'avaient pas entendu, c'était mon cas, la pièce d'Alvin Lucier. Et puis surtout, ce texte qui est dit et répété et qui réverbère dans cet espace, dans la chambre d'Alvin Lucier, il ne s'agit pas, dit Alvin Lucier, de démontrer ou de faire la démonstration d'un phénomène physique, mais, alors il faut que je retrouve la citation exacte, mais plutôt de lisser, donc d'éliminer toutes les irrégularités que pourrait présenter mon discours, my speech. Et effectivement, on l'entend bégayer. Alors qu'il soit bègue ou pas, ça aurait été encore mieux s'il était bègue, parce que ça introduirait une vraie dimension pathétique dans cette affaire. Mais bon, alors peut-être que c'est un bégayement fin. Mais peu importe, il y a bien une dimension. Alors moi, ça m'intéresse cette citation parce qu'elle condense finalement deux exigences, quoi, par rapport à la question de l'expérimentation, pour ne pas tomber dans le bricolage où n'importe quoi finalement va finalement produire un effet dès qu'on se donne un appareillage un peu sophistiqué avec une marge d'incertitude, ou comme dirait Bastien Gallet, une insaturation, quoi, un dispositif non saturé qui permet une liberté, une marge de manœuvre, il va forcément se produire des choses, il y aura des irrégularités, des choses inattendues, des aspérités, tout ça. Alors, est-ce que pour autant on expérimente ? Bon. Alors, pour être un peu plus précis et peut-être définir les coordonnées d'une pratique expérimentale, je pense que la citation d'Alvin Lucier est intéressante, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas tomber dans une démonstration, il ne faudrait pas que le geste artistique s'épuise dans la démonstration d'un phénomène physique. Si on est là-dedans, alors effectivement, on est dans ce qu'on pourrait appeler une variété de la physique amusante, qui serait la récréation acoustique. Je crois d'ailleurs que c'est Ludivine qui pointait ce danger-là. C'est toi qui parlais de récréation, je sais plus. Enfin, l'idée qu'il fallait pas, c'était un peu ennuyeux de tomber là-dedans, quoi, que d'être dans la démonstration récréative, quoi. L'effet pot de yaourt, quoi. Donc oui. Donc, mais alors, en évitant ça, ne pas retomber non plus. Et ça, c'est la deuxième garde-fou qui me semble perceptible dans la citation d'Alvin Lucier, ne pas retomber dans une sorte de pure phénoménologie de l'expérience sonore du lieu. C'est-à-dire voilà, exploration du lieu, bah, d'abord quel lieu et pourquoi ce lieu, c'est une question qu'il faut se poser. Ce qui me semble fort dans la citation d'Alvin Lucier, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire que son expérimentation, moi je pense que c'est expérimental, il a essayé quelque chose, mais elle est liée à un problème qui est bon, peut-être l'articulation d'une parole et d'un lieu, peut-être un problème avec la parole, je ne sais pas. En tout cas, il y a un enjeu qui est effectivement de réduire peut-être la parole en la bouclant comme ça sur elle-même, à la réduire à un état matériel de stridulation où on ne garde plus que la scansion, comme il dit, la scansion rythmique, quoi. Et disons peut-être ramener la parole à l'espace, quelque chose de cet ordre, quoi. Alors, il y a un problème en tout cas qui est identifiable et qui fait que ça se tient comme une œuvre. Souvent, je dirais, je suis amené à m'interroger quand il y a une pratique expérimentale. Je suis amené à me demander, mais c'est quoi le problème exactement ? Et si c'est une expérience de cartographie, d'exploration, de sympathie avec le lieu, pourquoi ce lieu ? Pourquoi pas un autre ? Et puis pourquoi en général sympathiser avec des lieux ? Ou pourquoi, disons, voilà, pourquoi se plonger avec tout un appareillage technologique dans l'expérimentation et finalement l'expérience sonore du lieu ? Pourquoi ? À quoi bon, quoi. Je pense qu'il faut se poser cette question, c'est-à-dire qu'identifier derrière toute pratique d'expérimentation un problème, quoi, et voir si ce qui se produit, non pas règle le problème, il ne s'agit pas de les régler, mais enfin permet de le reformuler, de le déplacer, de le préciser. Bon. Et alors, bon, il y a plusieurs, disons, là c'est pareil, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut, si on est dans un travail sur le lieu, d'expérimentation du lieu, on peut être, ça revenait souvent, on peut être dans un travail qui consiste à apprendre une empreinte du lieu, ça revenait souvent, prendre une empreinte du lieu et donc déployer le son comme ça, travailler le son comme quelque chose qui serait l'enveloppe tangible du vide entre les murs, quoi, quelque chose de cet ordre. Ou alors, et là ça m'intéresse plus et ça m'amène à mon deuxième lieu, disons, deuxième question, ou alors exploiter des phénomènes de résonance, pour le dire de façon très large, hein, et pour pas trop vite employer ce concept de sympathie, disons résonance, exploiter des phénomènes de résonance pour reconfigurer ou redistribuer les lieux, les localités au sein d'un site. Alors, c'est en fait ça, par exemple dans le travail de Pascal Brocolicchi, ça me semble être un peu ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un site, d'accord ? Enfin, dans un premier temps, il y a un espace, espace public, galerie, peu importe, nef du CAPC. Et puis, la question, c'est comment transformer cet espace en un site actif. Un site actif, eh ben, il s'agit de redistribuer, de reconfigurer des localités dans cet espace, quoi. Et ce serait peut-être ça, un audio-site. Mais alors, la pratique passe, et c'est là que c'est quand même une stratégie assez spécifique, elle passe par un exercice de délocalisation. Et délocaliser, c'est pas tout de suite tomber dans le romantisme de la déterritorialisation, de l'ouverture sur les flux et tout. C'est une pratique réglée, quoi. C'est une pratique maîtrisée. Et je pense pas que la délocalisation nous envoie tout de suite du côté, disons, d'un brouillage systématique des frontières ou du trouble ubiquitaire. Bon, dont on a bien vu qu'en fait, il recouvrait des pratiques extrêmement précises et souvent très maîtrisées. Là, je fais allusion à un des exposés de cet après-midi. Donc délocaliser pour produire des nouvelles formes de localité. Donc, ça m'amène, disons, à cette deuxième question. C'est quoi, finalement, locus, quoi ? De quoi on parle quand on dit qu'on travaille sur le site, sur l'audio-site ? Alors, locus, oui, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, locus, au fond. En tout cas, c'est une des dimensions qu'il faut explorer. Donc, plutôt que de parler de lieux, parce que c'est clair qu'on se méfie tous un peu des lieux, quoi. Il y a la charge poétique qu'il y a derrière, bon, habiter en poète, la poétique de la maisonnette façon Bachelard ou le pathos du lieu façon Heidegger. Bon, il ne s'agit pas de repoétiser des lieux ou de les réactiver comme ça sur ce mode de réenraciner ou de réinstaurer une sorte de rapport entre le corps et son environnement. Bon, c'est ce qui un peu risque d'être à l'horizon de la notion de paysage, mais c'était parfaitement ce piège-là est évidemment parfaitement évité puisque justement il n'y avait pas singulièrement dans l'exposé L'exposé d'hier sur le paysage, il n'y avait pas de référence au lieu. Il y avait une sorte de connexion immédiate entre un corps percevant et un paysage. Ça m'intéressait justement. Comment, alors, mais en même temps, je n'ai pas eu l'occasion de poser la question, mais je crois pas. Ah ben si, vous êtes là. Et bah, donc, on en parlera. Que devient le lieu dans cette affaire? Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, un intervalle entre l'horizon paysagier, le faire paysage, et le corps de celui que ça concerne, quoi, bon. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de court-circuit qui est peut-être productif, en l'occurrence. Je pense que c'est peut-être méthodologiquement ce qu'il faut faire. Du lieu, bon, du locus dans sa résonance un peu, justement, un peu trop enraciné ou un peu trop arrimé au corps organique, quoi. Bon. Donc, plutôt que de parler de lieu, la question, ce serait comment imaginer des formes nouvelles de localité. Et justement, pour sortir de ce que la métaphore du réseau, il y en était question cet après-midi, peut avoir un peu d'étouffant. Parce que ça fait 30 ans qu'on parle de réseau, qu'on distingue le réseau et le système, donc qu'on montre la particularité du fonctionnement réticulaire, etc. Mais enfin, la question, et c'était clairement, ça apparaissait clairement à la fin de l'exposé, c'est-à-dire qu'effectivement, la question qu'il faut poser maintenant, c'est quels sont les modes de mouvement, les nouvelles pratiques du mouvement, les nouvelles pratiques de circulation au sein d'un réseau, et aussi pour déjouer la tentation d'assimiler trop vite réseau et panoptique, ou réseau et dispositif de contrôle absolu. Ben justement, un réseau, ce n'est pas un système, c'est pas... Mais justement, la question, donc, c'est comment retrouver des formes de localité dans un réseau. Et alors là, il y a plusieurs stratégies. Je ne vais pas les assigner chaque fois à des pratiques ou à des pièces spécifiques qui ont été présentées ici pendant ces deux jours. Mais enfin, très clairement, je vais les énumérer, hein, 4 ou 5 comme ça, qui m'apparaissent comme des pistes intéressantes à creuser pour déployer des nouvelles formes de localité. On peut s'intéresser à la question des bords ou des frontières, quoi. S'installer sur la frontière comme n'étant pas ce qui divise, sépare deux territoires, mais ce qui ouvre un autre espace, entre deux espaces, quoi, quelque chose de cet ordre. Alors là, ce serait une métaphore qu'il faut un peu interroger, je suppose, quoi. Replier un espace sur lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, ça veut dire, ça revenait constamment, ça veut dire faire glisser des espaces hétérogènes l'un dans l'autre. Donc, enchevêtrer des espaces, selon divers procédés. Ça peut vouloir dire aussi, une nouvelle forme de localité, ça peut vouloir dire aussi, exploiter, alors là, on revient à ce concept de sympathie, exploiter les phénomènes de syrhythmie, déployer des paysages, dans la mesure où un paysage est toujours un effet de consistance, comme ça, ou un effet de convergence entre des rythmes qui s'accordent, même en dissonant, même en discordant, mais... Ce n'est pas une battue unique, universelle, mais enfin une syn-rythmie, quoi. Des rythmes qui marchent ensemble, d'une certaine manière. La dernière stratégie que je pointe sans du tout la développer, c'est l'introduction de contre-lieux, ou la dialectique du lieu et du non-lieu, quelque chose qui a été parfaitement développé et pratiqué par Robert Smithson, par exemple, la dialectique du site et du non-site. Pour qu'un site soit activé, il faut qu'il y ait un non-site quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Smithson, ça voulait dire qu'entre la spiral jetty et la galerie dans laquelle on la documente, ben, il se passe une sorte de court-circuit. Bon. Il y avait un exemple, je crois, de Max Neuhaus qui était donné ce matin. Bon, c'est pareil, installé dans Times Square, une sorte de contre-lieu qui a développé. Mais je pense que c'est partie prenante dans la construction de formes de localité au sein d'un réseau. Il faut peut-être introduire, non pas, comme c'est immédiatement la tentation quand on fait du streaming, une multiplicité de lieux sources, dont on capterait comme ça les flux pour les recomposer, pour tramer une sorte de super flux, si j'ose dire, un flux recomposé, un stream recomposé, non pas disséminer les sources pour les détourner, mais peut-être introduire des contre-lieux dans des lieux, quoi, à développer. Et puis enfin, la question du temps réel, et là, j'avoue que là, j'ai vraiment un chantier qui doit... Qui reste à explorer, parce que bon, on pense au direct, on pense à la simultanéité, en même temps c'est vrai que physiquement il n'y a pas de simultanéité, enfin, on sait depuis longtemps que le son met un certain temps à se propager d'un point à un autre, mais ça vaut pour tous les signaux et ça vaut même pour la lumière qui est le signal le plus rapide, dit-on, qu'on connaisse pour le transfert d'informations, disons. Il n'y a pas de simultanéité au sens absolu, quoi, en physique. Et en même temps, on ne cesse de parler de direct, de temps réel. Bon. Là, j'avoue que je pense que même le philosophe le mieux armé comme ça, sur les questions du temps et de la durée, aurait du mal à articuler clairement ce problème aujourd'hui. Et bon, une piste que je suggère, c'est que peut-être que la question du temps réel ou du direct, disons du stream, est peut-être plus un problème d'espace, paradoxalement, et donc là, on est en plein dans le sujet, c'est plutôt un problème d'espace que de durée, en l'occurrence. Je Alors, je termine là-dessus, simplement. Il me paraissait très symptomatique que le travail qui nous a été montré tout à l'heure sur ces téléphones portables, le travail d'Éric Maillet sur les téléphones portables qui capturent des images, qui ont un dispositif vidéo et qui capturent des images en direct, qui sont remontées en temps réel, je ne sais pas si j'utilise bien la distinction, c'est significatif qu'en fait, ce qui se passe, ce qui se joue là-dedans, et qui fait que c'est quand même très différent d'un film qu'on regarderait, comme c'était le cas ce matin, par la force des choses, en différé, d'accord, ce qui se passe, si effectivement on assiste en temps réel à ce remontage d'images prises en direct, ce qui se passe, c'est un changement de notre rapport à l'espace, c'est-à-dire à l'espace de cette ville, là j'ai oublié laquelle d'ailleurs. Oui, Ogeki. Notre rapport à cet espace est bouleversé en un sens très précis, c'est-à-dire qu'à la différence d'un montage comme ça qui vous montre des séquences prises en différents lieux ou points d'une ville, raccordées linéairement l'une à l'autre, ben, s'abolissent au fur et à mesure que vous les voyez, évidemment, vous voyez bon, tel aspect du lieu qui s'enchaîne, puis tel autre. Et puis, bon, si vous savez que c'est le produit d'une prise directe et d'un montage en temps réel, il y a une sorte d'effet de persistance locale. Je l'entends au sens où on parle de persistance rétinienne, les images comme ça qui vous restent dans la rétine, pour ainsi dire, alors même que le référent quoi, a disparu. Il y a une sorte de persistance du lieu dans la perception de ces images, quoi, comme s'il y avait affleuré en filigrane, comme ça, une sorte de réseau urbain ou de tissu urbain un peu diffus, puisqu'il ne s'agit pas de cartographier ou d'avoir un point de vue à vol d'oiseau. De cet espace, mais enfin, il y a une sorte de rémanence du lieu, quoi. Alors même qu'on est dans le fil plus ou moins narratif, plutôt pas en l'occurrence, mais disons dans le fil d'un enchaînement de séquences visuelles, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que voilà, c'est la démonstration, à mon avis, que l'effet esthétique du direct, c'est plutôt une reconfiguration ou un nouveau rapport au lieu qui est assez diffus en fait, et qui est lié au fait que voilà, les lieux persistent, ont une seconde vie comme ça, alors même que leurs images se soustrait à notre regard, quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est des pistes, c'est des questions, en tout cas je trouve ça évidemment, le laboratoire ou le chantier est extrêmement riche. Et bon, est-ce que la question de la sympathie ou ce levier-là, cet outil-là va nous permettre d'avancer sur les trois terrains que j'ai indiqués, expérimentation, question du local, nouvelle forme de localité, et enfin question du temps réel ou du direct ou du stream, je ne sais pas, peut-être on va en parler maintenant. Merci.
Je vous prie de m'excuser, j'étais pas là parce que j'avais des cours à donner. J'arrive juste au moment de la présentation de Elie Düring où il parle de localité. Donc, il se trouve que je sors d'un cours de sociologie basique et je fais juste une connexion où je leur présente un concept que j'aime bien de l'école de Chicago, qui est le concept de région morale. Morale s'entendant au sens du type d'engagement éthique ou pratique dans tel ou tel espace, mais s'entendant aussi par opposition à physique, c'est-à-dire la capacité qu'ont les sphères d'engagement dans des interactions de produire leurs propres assiettes ou leurs propres topographies d'assises pertinentes, et très souvent en prenant quelques libertés, quelques latitudes avec les segmentations physiques héritées. Donc oui, pour moi, travailler à locus sonus, c'est effectivement travailler la notion de lieu et essayer d'identifier en quoi elle est réellement à creuser, à expérimenter, justement. Mais bon, je n'étais pas là au moment où il était question d'expérimentation, je cède la parole.
Peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean tout à l'heure, il y a un point, et je pense qu'on l'avait déjà évoqué un peu auparavant en discussion, justement sur les points émission, réception dans les formes de réseau. Et ce dont on a pu, nous, un peu avancer dans le cadre du travail de laboratoire et du rapport à l'installation, c'est... également le fait que le dispositif que l'on a monté n'est pas forcément un point focal dans le sens où tu l'énonces. Et Et donc, c'est un peu, bon, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question des points d'émission et de réception en tant que site d'expérience, site d'expérimentation. Donc, voilà, là-dessus, je voulais t'entendre.
Non, effectivement, il y a eu un débat qui a commencé il y a quelques temps, parce que j'avais un petit peu réagi à la performance de Locus Sonus qui a été refaite ici, mais là, j'étais pas là. Et au fait que je suis très intéressé dans mon petit système, évidemment par le fait que l'un des éléments de transformation, c'est la disparition du point focal comme étant ce qui régit un espace entier de perception. Et d'ailleurs, depuis le début, il a toujours été travaillé, ce point focal est déplacé. C'est-à-dire quand Samuel a parlé du paysage, il n'a pas arrêté de mettre en mouvement ce point. La référence, ce n'était pas l'espace à partir duquel on voit un paysage, c'était plutôt une route, c'est-à-dire un processus de déplacement du point de vue. Et ce qui m'intéresse dans la performance de Locus Onus, c'est bien de se demander où elle est, où est le point. Il y a à la fois un travail sur le lieu ici, quand elle s'opère, mais il y a aussi une multiplicité peut-être simultané, en tout cas potentiellement simultané, de points de vue différents qui se distribuent. Les lieux où le flux est envoyé sont aussi des lieux qui reçoivent des informations sur ce qui se joue dans la performance, de sorte que l'endroit d'où se voit ou d'où s'expérimente cet événement n'est pas nécessairement un endroit prédéfini, polarisant et synthétisant d'une vision, c'est plutôt un champ. Et l'une des choses qui agit sur le présent du lieu où ça se passe, c'est bien évidemment que peu à peu, on prend conscience de la multiplicité de ces regards et de ces espaces-là. C'est-à-dire que ce qui interfère, c'est pas simplement que du son vient d'ailleurs, c'est que cet ailleurs est en jeu dans ce qui se vit en ce moment dans l'expérimentation de la pièce. Donc on est bien devant un endroit qui moi, m'intéresse, qui est de m'interroger sur ce que devient la présence dans cette histoire-là. Non pas du tout dans une espèce de métaphysique angoissée de la disparition, mais par contre comme un intérêt pour le mouvement ou pour le côté diffracté du point de vue, si on veut, ou pour sa multidimensionnalité. Et c'est l'une des choses qui me font penser qu'on n'est pas dans des logiques de l'arrêt du point de vue dans un lieu privilégié, mais bien dans des logiques du déplacement, et du déplacement dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois physique, comme un déplacement, mais aussi mental, mais aussi de sa propre perception. La simple expérience de tout à l'heure sur le son de la montée Jung, c'était intéressant de pouvoir tourner la tête et à ce moment-là, rien que ça, ce déplacement-là, ou le cornet acoustique me semble parfaitement significatif de ce genre de démarche. Voilà, donc c'est vrai que cet aspect-là m'intéresse au sens non pas du tout d'une déstructuration d'une forme qui serait en quelque sorte décomposée, mais au contraire du déplacement de l'endroit de la perception sur un curseur, et sur un curseur qui est sans arrêt questionné, sans arrêt en exploration, sans arrêt en déplacement. Voilà, de la même manière que j'ai été très intéressé par la notion d'exploration tout à l'heure, et la façon dont elle venait. La dimension exploratoire de la pratique artistique me semble de ce point de vue-là extrêmement, extrêmement intéressante, et peut-être par rapport à l'expérimentation, qu'il y aurait une différence à faire entre cette notion d'expérimentation et la notion d'exploration, voilà, qui ne me semble pas être exactement la même chose. Et l'avantage de la notion d'exploration, à mes yeux, c'est quand même qu'elle ne couvre pas exactement la même situation et qu'elle se débarrasse aussi de cette espèce de référence au modèle scientifique de l'expérimentation qui est un peu latent dans la critique qui était faite. Voilà.
Merci Élie, en tout cas, pour avoir brillamment concentré ces deux journées qui peuvent sembler effectivement un petit peu éparses, quoi. On a du mal un peu à lier tous les fils qui ont été tirés. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu as dit, l'expérimentation. Tu as parlé de pratique expérimentale. Alors, là, c'est un problème de lexique. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de pratique expérimentale, puisque l'expérimentation impliquerait plutôt une suspension de toute pratique. Et par ailleurs, tu disais plus précisément que le problème avec l'expérimentation artistique, c'est qu'elle pouvait ne pas être réglée, justement, qu'elle pouvait autoriser tout dérèglement et que ça ne produisait pas forcément des effets intéressants. Je ne pense pas qu'elle soit déréglée, je pense qu'elle est effectivement réglée. Je pense qu'elle n'est pas codifiée comme une pratique. Il y a une suspension du code, mais il y a une sorte de réglementation interne de l'expérimentation, puisque d'abord, il y a une dimension critique quand même, qui est centrale, donc critique de la technologie, enfin, ce que j'avais essayé d'expliquer. Et puis, surtout, elle opère dans un cadre qui est le cadre d'une pratique. Mais ce cadre n'est pas complètement déterminé, puisqu'il est toujours possible d'importer d'autres instruments, d'autres dispositifs dans le cadre d'une pratique a priori fixée. Donc j'aimerais que tu précises un peu ce que tu entends par expérimentation, en fait. Et si on peut notamment essayer d'exporter ce qu'on a pensé dans le cadre de l'art sonore dans celui de l'art plastique, par exemple, puisque tu es plus spécialiste de cette question que moi. Enfin, et puis, deuxième remarque sur l'idée de syntonie et de sympathie. Alors, je pense qu'il faut distinguer la syntonie et la sympathie. C'est pas pareil du tout. La syntonie, c'est un concept élaboré par Alfred Schütz, traduction du terme anglais mutual tuning in. Et chez Schütz, la syntonie, c'est une relation qui est pour lui fondamentale, fondatrice même de la relation sociale, mais qui peut très bien être antipathique. La syntonie, c'est juste le fait de, d'après Schütz, partager nos flux de conscience, mais puis avoir une antipathie dans ce partage des flux de conscience, comme l'a bien montré le travail du téléphone portable. Effectivement. Là, il y a une. Auquel cas la relation s'achève, la relation ne dure pas. Mais... Donc il n'y a aucun risque de symphonie dans la syntonie, en fait. Hein. La syntonie est rarement symphonique. Enfin, elle peut être symphonique, mais elle peut aussi être antipathique. Voilà.
Oui, je ne vais pas répondre sur les derniers points, puisque tu as très bien dit. Enfin, ça montre qu'effectivement, il faut préciser ce concept de sympathie et ce qu'on a tendance à y associer. Je pense qu'il recouvre pas mal des choses assez différentes. Bon, sur l'expérimentation, je vais faire au plus court. Et ça, bon, effectivement, c'est une question de vocabulaire. Tu as envie d'appeler pratique des choses qui sont codifiées. D'autres appellent ça des usages. Bon, ça, on peut se tomber d'accord. Et l'essentiel, c'est que tu pointais dans ton exposé une dimension critique qui te semblait, enfin, que tu jugeais indispensable à l'identification d'une démarche esthétique, et donc créative au sens esthétique. Parce que tu disais, c'est le prix à payer, c'est effectivement qu'il faut qu'il y ait un rapport critique, qui n'est pas forcément un rapport de dénonciation en l'occurrence, mais un rapport disons, au moins lucide et critique, non pas aux techniques comme telles, mais à la technologie qui est le discours ou la rhétorique ou disons l'image des techniques qui accompagne leur usage. Et donc, alors ça, pour le coup, ça me semble être un critère normatif pour éliminer des tas de choses qui ne relèveraient pas d'une pratique proprement esthétique. Et c'est un critère qui est à la fois très, très fort, et en même temps, je pense qu'il éliminerait pas mal en fait, de démarches qui ont été présentées au cours de ces deux jours. Il est peut-être trop fort. Je veux dire, non, mais c'est vrai, ça, que, ou alors la solution de repli, c'est de dire, bon, finalement, ce qu'on appelle une critique de la technologie, finalement, c'est simplement un usage non codifié, quoi, des techniques. Mais alors, à ce moment-là, voilà, tout usager, finalement, tout amateur, quoi, détourne, peu ou prou, à sa mesure, détourne les appareils qu'il utilise. Et à ce moment-là, bon, on n'est pas des artistes pour autant, mais tu vois, bon, je m'interroge sur la manière dont tu vas appliquer ton critère, quand même, est extrêmement fort. Quoi. C'est quoi un rapport critique à la technologie. Je ne suis pas sûr que toutes les pratiques qu'on a identifiées pendant ces deux jours satisferaient à ce critère. Bon. Mais maintenant, pour répondre à la demande qui était de préciser un peu ce que j'entends par expérimentation, je le préciserai pas en général, parce que là, il y aurait pour des heures à proposer des critères d'une pratique expérimentale, et peut-être que la question n'est pas de proposer des critères, en l'occurrence, mais peut-être d'isoler les enjeux, quoi. Les enjeux qui gravitent autour de la question de l'expérimentation. Un des enjeux, c'est précisément la question d'une pratique locale. Ce que c'est qu'une pratique locale, il y en a été implicitement question dans toute la discussion autour du réseau. Là. Enfin, Deleuze et Guattari, ils associent au réseau bon, la métaphore du rhizome, l'idée d'un espace dont tous les points peuvent être connectés les uns aux autres, soit un modèle linéaire, mais la ligne nomade quoi, qui enchaîne comme ça dans toutes les directions. Et puis, il parle aussi beaucoup d'espace lisse et d'espace trié, comme s'il fallait, comme ça, conquérir un espace lisse qui serait la condition d'une pratique créative. Alors, ils ne disent pas expérimental, mais il y a quelque chose de cet ordre, puisque d'ailleurs, ils citent souvent Cage, Lamont et Young, dans ce livre qui s'appelle « Mille plateaux ». Alors, c'est juste une remarque, simplement pour dire que l'espace lisse, tel que je le comprends, en lisant le dernier chapitre de « Mille plateaux », le lisse et le strié, d'abord, c'est pas du tout une condition absolue, au sens où il faudrait s'installer dans un espace lisse et s'y tenir, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire exactement le contraire, à savoir qu'il faut strier. Si on ne strie pas, on n'est pas dans une pratique qui peut produire des plans de consistance ou des formes, tout simplement. Et je dirais, une condition pour qu'une pratique expérimentale soit artistique, puisqu'au fond, c'est ça l'enjeu. On n'est pas en train de définir l'expérimentation dans les sciences, dans les techniques. Je ne pense pas qu'il y ait de normes absolues comme ça de l'expérimentation. Qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation artistique ? Ce serait une pratique expérimentale qui se donnerait les moyens de produire des formes ou des plans de consistance comme ça, où une pratique peut se stabiliser, peut-être pas à travers des formes, mais des gestes au moins. Et alors, simplement, donc je fais le raccord avec la question du local, l'espace lisse, en l'occurrence, ça n'est rien d'autre qu'une condition très générale qui s'impose à toute pratique créative, qui est qu'elle procède localement, c'est-à-dire, pour le dire au plus simple, de proche en proche. C'est un terme que les mathématiciens emploient souvent, c'est une expression qu'on retrouve. De proche en proche, c'est une manière justement d'analyser les courbes, c'est l'approche locale qu'on oppose à l'approche globale. Bon, on avait l'an dernier, à l'espace Paul Ricard, et Pascal Broccoli qui était là, consacré toute une séance à la question du local. Toi, tu étais là aussi d'ailleurs, Bastien, je t'oublie. Ça s'appelait « Qu'est-ce que penser localement ?» de façon locale, et évidemment, qu'est-ce que créer localement ? Et on avait essayé de déblayer le terrain, et précisément, on tournait autour de l'idée qu'une démarche qui procéderait de proche en proche, et c'est peut-être ça finalement ce qui est intéressant dans la sympathie, c'est qu'elle procède toujours de proche en proche, un peu comme les oscillateurs à Lampanéon, dont on parlait tout à l'heure, qui se stabilise, enfin qui entre en phase de proche en proche, toujours, par rapport de voisinage, quoi. Peut-être que c'est ça le critère, et à ce moment-là, je termine là-dessus, la question du local, ce n'est pas du tout de s'interroger sur le lieu, c'est-à-dire là où on est, ou sur l'endroit d'où vient le son. Ce n'est pas le lieu au sens du point ou du site topographique. La question du local, c'est une certaine manière de circuler, donc on retrouve la question de la circulation du mouvement, et c'est une manière de circuler de proche en proche, de connecter, c'est une question de connexion, de connecter des lieux sans avoir à déployer l'espace global, sans avoir à se donner une image globale de l'espace dans lequel on circule. Ce serait l'idée de réengendrer l'appréhension de l'espace, de proche en proche, à mesure qu'on connecte des lieux entre eux. Bon, ça me semble être l'intuition qu'il y a derrière l'idée d'espace lisse chez Deleuze, et ça me semble être la condition d'une pratique expérimentale, qu'elle procède toujours ainsi, sans déployer d'emblée une idée de l'espace dans lequel elle opère. Ça peut être un espace physique, un espace virtuel ou un espace mental, c'est toujours la même chose. Si on a une idée du réseau, de la configuration globale du réseau, et qu'on connecte des points, on est dans une approche globale. On n'est pas dans le local, on est dans le réseau, mais on est dans une démarche pas du tout expérimentale, puisqu'on multiplie les sources, on connecte, on capture des flux, mais ça produira toujours à peu près la même chose. Là où ça devient créatif et là où l'expérimentation débouche sur une forme artistique, c'est quand l'approche, justement, procède par connexion de proche en proche et produit des formes locales. Bon, je ne développe pas ça, mais il y aurait quelque chose dans cette direction, quoi.
Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi je reprendrai pour y avoir assisté la forme que vous aviez trouvée donc, dans la performance de Locus Sonus que vous avez joué à Arborescence, où moi pour la première fois j'ai pensé avoir vu se matérialiser un peu ce sur quoi vous travaillez de la manière suivante. C'est que ce que j'ai trouvé de bien, c'est que vous avez continué à utiliser les streams comme matière de travail, mais bon, après tout, moi, quand on me dit le stream vient de Chicago, c'est parce qu'on me le dit que je sais qu'il vient de Chicago, mais il pourrait venir d'ailleurs, ou il pourrait avoir été pré-enregistré, que j'en aurais aucune preuve. Par contre, moi, ce qui me semblait intéressant dans la forme que vous aviez trouvée, c'est que la chose a basculé doucement, on va dire, avec la nuit qui tombait, d'une forme d'installation vers une forme de concert. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que d'un coup, on était d'une problématique d'espace à un problème de temps pour revenir à un problème d'espace. Et moi, là, j'ai eu vraiment l'impression que c'était quelque chose qui matérialisait à un endroit, à un moment, un procédé donné, à savoir de travailler avec d'autres lieux et de les faire résonner à un moment, pour revenir à leur statut de stream, c'est-à-dire quelque chose qui venait d'autres endroits. Et je me demandais si ce n'était pas tout simplement dans des glissements de forme comme ça qu'on pouvait trouver du sens, c'est-à-dire de glisser de l'espace, de l'espace à une question de temps pour revenir à une question d'espace. Parce que je pense que les deux sont liés, mais simplement d'arriver à trouver la manière de le matérialiser, il me semblait que ça donnait tout son sens à la mise en place des streams et à comment on pouvait les utiliser, les faire résonner à un endroit pour que ça soit quelque chose de vraiment tangible. Voilà.
C'est sur la ressemblance, enfin, la pratique, le parallèle entre la recherche scientifique et artistique et le fait qu'il y a dans un laboratoire comme ce qui se passe à Locusonus, je cherche des parallèles dans l'histoire de l'art de cette proximité de la recherche scientifique et artistique liée par la technologie. Enfin, je m'exprime pas très clairement, excusez-moi, mais c'est assez marrant. Par exemple, dans le travail de Pascal Brocolicchi, l'importance de la science, j'ai l'impression. Il y a toujours une partie de recherche et on ne sait jamais, enfin, pendant ces deux jours, ça passait toujours de la recherche à la création. Et des fois, c'est flou. Voilà, enfin, c'est juste cette remarque-là que je voulais faire. Et je ne trouve pas dans l'histoire de l'art d'autres exemples, ni dans la peinture. Il n'y a pas de symposium de peinture qui se pose des questions de sociologie ou scientifique, de forme d'onde, etc. Je trouve ça assez curieux, ce qui se passe. Bon, voilà, c'était juste ça.
Je peux peut-être répondre à ça, mais en tout cas en partie, c'est que c'est assez drôle parce que c'est quelque chose que, en tout cas pour moi, j'ai toujours essayé de fuir. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, on parle effectivement de ces dimensions qui sont relativement spatio-temporelles. Et les seuls moyens jusqu'à présent que j'ai toujours trouvé de non pas d'essayer de définir, même pas d'analyser, mais en tout cas d'essayer de repérer du vécu dans des situations où bon nombre de repères m'échappaient, c'est pas forcément à travers les outils de la science ou les outils d'analyse, mais en tout cas c'était à nouveau d'essayer de dévier les choses. Je donne juste un exemple puisque je parle de ce goût pour les zones où il y a plus aucun repère, mais en fait on s'aperçoit que c'est le temps qui est marqué là, c'est-à-dire que le moment où on va décider, c'est un moment de vie et de mort d'ailleurs, hein, mais le moment où on va décider de faire un pas de plus pour ne plus revenir sur ses pas et mourir dans un désert, c'est un temps. C'est-à-dire, je sais d'une manière très précise que si je continue à avancer, d'ici une heure, je serai perdu, je serai mort. Inversement, c'est-à-dire, si on veut revenir... Alors, on parlait de non-limite aussi, d'espace, de non-lieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un va-et-vient entre ce qui serait d'une atopie et ce qui serait plutôt d'une pantopie, c'est-à-dire des dimensions multiples à partir desquelles on aurait encore la tentation de pouvoir se localiser. Et ces espèces de fonctionnements-là, ce sont des stratégies. Moi, je pense que ce sont des stratégies, les mêmes d'ailleurs, pas forcément les mêmes, mais en tout cas les mêmes postures de stratégie qu'on peut retrouver dans l'art de l'exposition, l'art d'occupation des espaces par l'œuvre ou par le processus qu'elle engendre. Et de fait, c'est pour revenir à ça, ce que tu disais, c'est que j'ai toujours essayé de fuir la typologie de la science à travers ça, et je n'ai pas beaucoup de réponses, parce que c'est quelque chose qui je crois que le risque de ça, c'est que ça devienne une forme identifiable, reconnaissable, et pendant 4 ans, par exemple, j'ai animé un laboratoire qui s'appelait Lexonic, qui fonctionne toujours, mais qui est en sommeil pour l'instant, avec des étudiants, dans une école, un IUT, donc une école de recherche scientifique, et là, je dirais que c'est le moment où j'ai trouvé l'espace le plus confortable pour pouvoir travailler en échappant à ce risque-là, c'est parce que là, on était au cœur de la science, justement. Et c'est une question qui n'était jamais posée de la part de ces étudiants-là, parce que pour eux, c'était une évidence. Ils ne se posaient même pas la question du statut, de la reconnaissance par rapport à ça, mais on fabriquait des outils de modélisation et de compréhension de l'espace, à travers la 3D aussi, et pas qu'à travers le son,
tout en avançant d'une manière extrêmement efficace et rapide, sans jamais se poser cette question que je vois revenir très, très, très souvent, elles sont tout à fait légitimes, dans les écoles d'art, justement. Et je comprends tout à fait aussi pourquoi. Et à la fois, j'ai l'impression que quand on essaie de fuir ces choses-là, on les attire, de fait. C'était à peu près... Je ne sais pas si j'ai éclairci...
Moi, je voulais te répondre, but qui est adressé à Pascal, peut-être, mais je voulais te répondre sur cette question sur la notion de recherche, parce que je pense que c'est ce mot-là, peut-être, qui te fait poser question. Alors, d'abord, moi, je voulais donner une réflexion, peut-être pas pour le travail de Pascal, j'espère que... je me permets. Je pense que la notion de scientificité à l'intérieur de son travail est peut-être autant un sujet qu'une réalité technique. Ça apparaît assez clairement dans tes dessins que je n'avais jamais vus, qui m'ont assez surpris et en même temps qui affirme très fortement cette position-là, quelque part, d'une forme qui découle d'une idée, d'une technicité, quelque part. Donc, ce qui est, quelque part, pour moi, la même chose que quand Christian Marclay fait un dallage au sol de CD. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de musique, il parle de musique, ou il prend la musique comme sujet. C'est pas pour étaler là-dessus, mais en tous les cas de figure, je pense qu'effectivement il n'y a pas tant je pense qu'il y a complètement autre chose dans une notion de cette idée d'un moment donné de un aspect technique, scientifique qui s'inclut ou qui est incorporé à un moment donné dans un travail, une notion de recherche en art. Donc c'est juste pour peut-être un peu faire le distinguo entre ces choses-là. Et je pense que ce qui, en tout cas par rapport à Locusonus, si on parle de la raison pour laquelle on parle de recherche, etc., c'est plutôt dans le sens de ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que c'est plus une question de méthode et d'une manière de mener les choses. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'idée qu'on a une possibilité à un moment donné d'identifier des problématiques et sur lesquelles on peut travailler ensemble, en faisant une sorte de pool comme ça de savoir, d'approches différentes, et tout ça pour à un moment donné essayer de faire avancer des choses sur une question. Ce qui peut-être une démarche qui n'est pas tout à fait celui auquel on est habitué dans une école d'art ou dans le milieu artistique tel qu'il est vécu le plus couramment. Et cette chose-là, est-ce que ça ressemble à une recherche de type scientifique ? Probablement pas, mais peu importe. C'est pas vraiment la question. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec à la fois le désir et la possibilité de créer c'est peut-être une nouvelle forme d'approche de démarche artistique et qui, pour nous, en tout cas, correspond quelque part à des développements qu'on voit arriver dans le monde qui sont notamment justement sur des questions de collectivité ou de partage de ces savoirs qui s'éloignent peut-être d'une production individuelle ou individualiste. Et donc on saisit de cet espace-là pour effectivement essayer de développer une méthode qui nous semble y correspondre.
Voilà. Encore une fois, j'ai un peu l'impression de marcher sur des œufs parce que je... J'étais pas là quand il a été question d'expérimentation, mais peut-être que ce qu'il faudrait dire, c'est que, en toute généralité, les enjeux d'une expérimentation, de quelque ordre qu'elle soit, sont de valider des propositions, quelles qu'elles soient. Une fois que j'ai dit ça, la deuxième chose que je dirais, c'est que la validation, elle est au compte. À charge, je ne sais pas comment il faut dire, d'un collectif d'individus. Valider, c'est toujours co-valider. Donc réfléchir sur l'expérimentation, c'est pas simplement sur une instrumentation équipée qui teste des effets. C'est ça souvent. Évidemment, les instruments donnent une sorte de plausibilité à la notion d'expérimentation, mais peut-être qu'on pourrait s'en passer. Mais valider des propositions de manière instrumentée ou pas, c'est toujours le faire au devant ou en fonction ou au sein de collectifs qui sont plus larges. Et moi, le point qui m'intéresse en travaillant avec Locus Sonus, c'est que, et c'était par exemple très très clair ce matin dans le passage en revue de différentes expériences d'art sonore que nous a fait Peter, il est évident que elles ont un air de famille, c'est-à-dire qu'elles testent les mêmes problèmes d'une certaine manière. Et je pense que quand un artiste avance une proposition, il a évidemment le credo qu'elle va être validée ou validable, mais pour ça, il s'appuie sur des expériences frères ou sœurs, où se testent des problèmes qui sont sinon les mêmes, du moins qui ont un air de famille. Et donc, on peut parler d'expérimentation, pour autant, instrumentée ou pas, pour autant qu'on arrive à repérer une question qui est traitée, qui se pose, et qui est taclée, comme diraient les Anglais, qui est prise en charge par un collège élargi. Alors, est-ce que c'est un collège d'artistes, en l'occurrence? Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une dédifférenciation possible entre les exercices de la recherche scientifique et de la recherche artistique. Il y a cette communauté de collèges qui interroge des effets produits, qui posent la question de leur validité et qui le font dans des cultures qui sont des cultures consistantes et qui se solidifient d'ailleurs et qui se développent au travers de ces épreuves même de tests d'effets, que ce soit des effets de vérité ou des effets formels, esthétiques. Après, on peut différencier. Mais simplement, ce que je veux dire là, c'est que je pense que la notion d'expérimentation et de faire des expériences oblige à sortir de ce qu'en sociologie on appellerait un individualisme méthodologique qui situe et qui isole des individus face, éventuellement dans une posture critique, face à des objets et avec une intention qu'ils sont seuls à porter d'une certaine manière. Je crois que dès lors qu'on fait entrer le cercle des collèges visibles ou invisibles, la notion d'expérimentation est à mon avis beaucoup plus praticable, acceptable. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
J'en profite puisque c'est le secteur. Non, mais je voulais juste rajouter une chose à ça, et encore sous la forme d'une anecdote, puisqu'on parlait tout à l'heure de ce rapprochement art-science. C'est pas tout à fait vrai ce que je disais tout à l'heure non plus, parce qu'à un moment donné, je pense que dans cette espèce de désir de voir clair, le plus clair possible, de zéro à l'infini, dans un modèle qu'on va essayer de creuser le plus loin possible, à un moment donné, on en finit quand même par crever le plancher et passer soit à l'étage au-dessus, soit à l'étage au-dessous. Et je parlais tout à l'heure du laboratoire, du Lexonic, mais une petite anecdote, c'est que les étudiants avec lesquels je travaillais se disaient membres d'ailleurs du laboratoire, alors qu'ils étaient dans leur recherche, justement, dans ces modèles de recherche qu'ils avaient mis au point, ils étaient rentrés en contact, sans prévenir, avec des chercheurs de la NASA, et ça a prêté à certaines conséquences, puisque les recherches qu'on avait faites ont servi à un moment donné à d'autres chercheurs qui sont basés en Italie sur un site internet qui s'appelle vlf.it, sur lesquels ils se sont appuyés pour continuer leur travail à un moment donné. Parce que ça s'est croisé, mais par le plus pur des hasards. Donc je crois que la passerelle, l'infime passerelle, elle est très fragile, justement. C'est lorsqu'on essaie, comme je disais, cette espèce de limpidité le plus loin possible pour arriver à, forcément à comprendre des choses dans ces applications-là, simplement.
Oui, alors c'est sans doute très naïf, mais j'ai aussi l'impression quand même qu'en tant qu'artiste, la manière dont on doit expliquer l'expérimentation me semble un peu en décalage de l'image que j'en ai, parce que j'ai quand même l'impression que oui, quelquefois on cherche, mais aussi on trouve, quoi. C'est-à-dire que souvent, on va trouver sans forcément être en recherche. Et on va souvent se mettre en condition, être dans un dispositif d'écoute, et peut-être trouver sans forcément que ce soit relié à une recherche cadrée. Et je crois qu'il y a un décalage là-dessus, en fait, sur le fait que dans le domaine artistique, ça se passe sans doute dans d'autres domaines aussi, mais assez fréquemment, on va trouver sans forcément être dans une recherche ciblée sur un domaine précis.
Moi, il me semble que le gros problème qu'on a, c'est qu'on a une vision très fausse de la recherche scientifique. Je veux dire, ce qui vient d'être dit, ça existe absolument dans la recherche scientifique. Et je crois que c'est le vrai problème qu'on a, c'est quand on projette un truc qu'on appelle recherche scientifique et on se dit, est-ce qu'on ressemble à ça ou pas ? Mais je crois qu'on parle de ce qu'on projette, pas de la réalité de ce que c'est que la recherche scientifique. Et il me semble que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est effectivement plutôt dans ce que disait Peter, c'est-à-dire quelles sont les questions qui nous interrogent d'une manière commune et qu'est-ce qu'on peut apprendre les uns des autres dans le travail de ces questions. Ça me semble être là le nœud des choses. Et évidemment, qu'il y ait une navette ou une espèce de gradation entre l'aspect très individuel d'une création ou d'une position ou d'un imaginaire et l'aspect collectif, c'est bien évident. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir le parcourir, c'est de pouvoir dégrader ça, c'est de pouvoir aller de l'un à l'autre. Et il me semble que la vraie question est effectivement c'est d'identifier des espaces communs qui sont des espaces sur lesquels on se croise ou qu'on interroge. Et à la limite, ce n'est même pas simplement au sein du champ de l'art. Enfin, moi, je ne suis pas artiste, je ne me sens pas du tout en dehors de la question de l'idée de recherche en art. Je m'y sens impliqué parce que je traverse un certain endroit. Et à un moment donné, c'est ce qui nous fait aussi retentir. Donc, je crois que ce qu'on met en question, en commun, c'est des questions. Et que c'est pour ça qu'on est dans une situation de recherche. Et j'ajouterai une seule chose, c'est que ce qui fait qu'il y a de la recherche, c'est ce qu'on trouve. Je veux dire que c'est pas parce qu'on cherche quelque chose qu'on trouve. On va comme on veut, comme on peut. Je veux dire, on avance moi, l'image que j'ai, c'est le chasseur. C'est le lapin qui fait le chasseur. Et le chasseur, il se balade, il espère bien trouver un lapin. Mais plof, il y a un lapin qui part. Il part peut-être pas exactement à l'endroit où il l'avait prévu, mais il a fait en sorte qu'il puisse être là au moment où le lapin part. Mais c'est le lapin qui fait qu'il y a un chasseur. Je veux dire, sinon, je me balade avec mon fusil dans la campagne, mais je ne suis pas chasseur. Donc, simplement, il y a comment... Et s'il y en a un autre qui dit, ben là, par là, il y a eu des lapins par là, ça, c'est une information intéressante. Ou si j'apprends à repérer... Ça, c'est, donc, il y a un aspect commun, mais c'est bien ce qui surgit du travail qui fait le chercheur. Je veux dire, c'est pas un chercheur n'a jamais l'idée. Enfin, si un chercheur avait à l'avance l'idée de ce qu'il va trouver, mais c'est plus un chercheur. Je veux dire, c'est plus de la recherche, c'est fait quoi.
Ben, aussi, ceci dit, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure et qui n'a pas été repris par nos amis en face, mais c'était qu'effectivement il y a aussi la question de l'exploration et que je pense que quelque part ce que tu dis. Ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'exploration. Il y a effectivement une différence fondamentale entre l'expérimentation et l'exploration, parce que l'exploration ne fait que définir un champ dans lequel on va se chercher. Tandis que la recherche a tendance quand même à définir une question. Et il y a forcément, obligatoirement ces deux aspects qui sont présents.
Oui, il y a une dimension, un mot qui a pas été beaucoup prononcé et la notion de plaisir en fait voilà simplement je crois que il y a un moment et de ludisme enfin ludo de jeu quoi et c'est aussi le jeu de la recherche je veux dire c'est oui on cherche mais il y a effectivement on court après un truc on sait pas vraiment quoi et c'est pour ça qu'on court parce que tu parles de lapin, mais sauf que là, le lapin, en l'occurrence, on ne sait pas que c'est un lapin. Mais on sait qu'il est peut-être quelque part, ou on croit qu'il existe, on espère qu'il existe, alors on y va. Mais finalement, ce qui est important, c'est le parcours. En fait, ce qui est important, c'est la démarche. C'est le temps de cette démarche. Je veux dire, il y a un moment où, enfin, un peu carpe diem, quoi. Il y a un moment où c'est je sais pas, on passe un moment ensemble, déjà, c'est agréable, c'est déjà pas mal, quoi. Et pendant qu'on fait ça, voilà, là, on n'est pas en train de regarder la télé, par exemple, donc c'est déjà une bonne chose. Et rien que pour ça, je pense que c'est intéressant que ça existe. Voilà, que ces formes de recherche, que ces groupes de recherche, que ces interrogations, elles existent, ça me semble essentiel. Et c'est peut-être déjà, rien que le fait que ça soit possible et que ça existe, c'est peut-être déjà une forme d'alternative, c'est peut-être déjà une forme de... j'ai pas vraiment de mots, ou peut-être ils seraient trop forts à utiliser, mais c'est peut-être déjà une forme esthétique, disons. Voilà. Il y a un autre truc, c'est qu'on m'a fait beaucoup de retours sur mon boulot en disant que c'était super drôle, mais en fait, moi, je le vis pas très. Enfin, ouais, je me marre pas tous les jours non plus, même si je prends beaucoup de plaisir à travailler. C'est pas. J'ai l'impression de travailler aussi avec des choses assez sérieuses. Ça veut pas dire. Ça ne veut pas dire triste, hein, mais avec des choses sérieuses et importantes, voilà, je crois.
En fait, à vrai dire, je suis très très gêné par ce que tu viens de dire, dans le sens où si je contracte ce que tu as dit, donc c'est-à-dire un art de recherche ou un art qui a à voir avec la recherche, enfin, peu importe, finalement, sur une forme d'art qui oublie la question de l'adresse. De l'adresse, l'apostrophe, la place du spectateur, si tu veux. C'est ce que j'ai entendu, si je contracte. Et enfin, moi, c'est un problème fondamental. Enfin, je veux dire, pour moi, la notion fondamentale en art, c'est ça, c'est l'autre. Voilà. Et donc, je pense qu'on ne peut pas débarrasser l'art de cette donnée fondamentale, même si cet art se part de recherche et d'expérimentation.
Ben, moi, je ne suis pas vraiment partisan du point de vue qui mettrait ce qu'évoquait tout à l'heure Jean, à savoir d'un côté l'artiste, de l'autre le spectateur. Et moi j'ai un désir, je pense, quand je travaille, c'est de partager une expérience. Et c'est pas, j'envisage pas une adresse en fait. Voilà. Pour moi c'est plus un partage qu'une adresse. Donc c'est, je sais pas, pour moi l'intérêt d'un travail finalement artistique, ça va être ouais, peut-être l'échange qui va permettre. Et c'est pas, je me réfère pas à l'esthétique relationnelle de Bourriaud, enfin, qui est une forme, voilà, je m'en tape, surtout que ça fonctionne pas. Mais, pour moi, le rôle social de l'art, en fait, est peut-être le rôle le plus important de l'art. Voilà. Et je sais pas, enfin, c'est pas. Le problème avec les termes, c'est qu'ils changent tout le temps en fonction du contexte dans lequel on les utilise. Et le terme même d'art social ou de faire du social en faisant de l'art sont des termes qui, dans le champ de l'art, sont hyper péjoratifs. Et, alors que je pense qu'ils sont fondamentaux, en fait. Mais simplement, on pose une imagerie là-dessus sur qu'est-ce que c'est que le social, en fait, sur l'idée de service. Voilà. Je ne pense pas que l'art soit un service, mais je pense que ça doit aider à des formes de socialisation. Et ouais, voilà. Et que le plus important pour moi, en fait, c'est le vivant, quoi, tout simplement.
Enfin, moi, j'ai utilisé des mots très précis. Je ne parle pas de social, pourquoi pas, mais c'est une autre question. J'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà. Si. En fait, au-delà de ce que j'ai dit, en fait, je voulais en venir sur. Je pense que c'est intéressant de distinguer un artiste qui, à un moment, va faire des recherches. Pour lui, pour mettre au point, pour affiner des phénomènes, des mécanismes, des jeux, de quoi que ce soit. Et ça, on peut d'ailleurs, ça concerne tout à fait, toutes les formes d'art, à mon avis. Voilà. Et après, de ce qu'est une forme artistique, c'est pas parce qu'un artiste fait des recherches que cette recherche a cette fameuse qualité, quoi, c'est-à-dire d'avoir une adresse. Et enfin, moi, très souvent, je suis quand même gêné par... je ne parle pas pour ce que j'ai vu aujourd'hui et hier. Je suis quand même très souvent gêné par des artistes qui s'avancent comme ça avec cet argument de la recherche et qui en oublient quand même, à mon avis, le fait que c'est une forme qui est faite pour être donnée. Peu importe si on sait à qui, pourquoi, comment. Mais avant tout, je pense qu'une forme artistique contient cette idée, quoi, que c'est une chose partageable. Et très souvent, des artistes qui se lancent dans des processus de recherche, à mon avis, oublient en cours de route cette notion-là.
Je vous propose de clore ces deux journées. Je pense que nous sommes tous fatigués, remplis de plein de choses. Donc, merci à tous pour toutes vos interventions, vos présences. etc. Puis à une prochaine fois, alors.